Bonjour, merci Sylvie, merci à mes collègues et Delphine de m'avoir invitée. Alors depuis tout à l'heure, j'essaye de me dire comment je vais faire le lien avec ce que tu dis. Alors c'est pas évident à part Olivier Bigot à la fin ou je sais pas quoi, parce qu'il faut que Didier Bigot, je me suis dit voilà, parce qu'il faut quand même que je trouve un lien avec le religieux, c'est pas si simple. Alors je suis anthropologue et je travaille un autre lien, un autre croisement qui est le croisement entre les migrations et les religions. On en a pas mal parlé, en fait, dans plusieurs exposés. On parle des acteurs religieux, on parle de la société civile, et on l'évoque souvent sans creuser plus loin, qui sont ces acteurs religieux sur les routes de la migration. Je travaille sur ces routes-là, entre Afrique subsaharienne et monde arabe. Et effectivement, sur ces routes, comme on le dit depuis hier, on voit que les migrants venus d'Afrique subsaharienne vont s'installer de façon de plus en plus pérenne dans des pays du monde arabe. J'ai surtout travaillé de mon côté sur l'Égypte et sur le Maroc. Et dans ces croisements de migration religieuse, j'essaye de voir comment la migration va créer de nouvelles dynamiques religieuses, mais aussi comment la religion peut aussi créer des dynamiques migratoires. J'ai travaillé auparavant beaucoup plus sur la question de l'islam à migration, dont Sylvie en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport aux migrants sénégalais de la confrérie Mouride sur les routes. J'ai travaillé sur les migrations africaines au Caire et notamment sur les étudiants de l'université El-Azhar. Et puis, petit à petit, dans ces pays du monde arabe, j'ai rencontré, on va dire peut-être paradoxalement, j'ai rencontré le christianisme. Effectivement, ça ne m'était pas apparu avant. Mais du coup, il a fallu aussi que je me forme à cette question-là. J'étais beaucoup plus formée sur l'islam et sur la connaissance d'un islam soufi, en plus, un petit peu plus. J'ai suivi cet islam dans la migration, j'ai vu un petit peu ces nouvelles constructions. Et puis, dans tous ces pays-là, du monde arabe, j'ai rencontré de plus en plus de migrants africains chrétiens. Ces migrants s'installent de plus en plus longuement, comme on l'a dit, dans ces pays, donc apportent avec eux leur culture religieuse, et parfois leurs instances, et puis parfois leurs hommes de religion aussi. Mais, comme on va le voir, la migration, c'est aussi un lieu, ces espaces, mais d'Afrique méditerranéenne, c'est aussi là où de nombreuses instances religieuses ou d'origine confessionnelle, on a parlé aussi d'ONG beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'ONG d'origine confessionnelle qui vont s'installer et qui vont essayer, en outre, de faciliter les questions d'accueil, de formation, d'accompagnement social. C'est ça qu'on a vu plutôt depuis hier. Mais on regarde rarement l'aspect spirituel, effectivement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que là pour faire de l'accompagnement social et de la formation, etc., etc. On a la naissance d'un véritable marché religieux sur ces routes et qui s'appuie sur un fait qui est quand même, du point de vue de l'acteur, assez incontournable, c'est que pendant la migration, durant la migration, ou durant l'exil, si on veut dire pour utiliser d'autres mots, la foi, les pratiques religieuses vont se renforcer, vont s'ancrer et vont parfois prendre aussi de nouvelles directions. Alors, du point de vue des acteurs, c'est souvent pour donner un sens à l'expérience migratoire, face à un défaut de reconnaissance juridique, face aux discriminations qui sont vécues au quotidien, aux difficultés économiques rencontrées dans les pays d'accueil. On a vu aussi avec Mehdi, avec Sylvie, que la reconnaissance passe souvent par des formes de communautés, des communautés d'itinérance, des communautés de sens, et aussi du fait des communautés religieuses qui sont là pour accompagner, mais aussi en tant que ressources, mais en tant que ressources matérielles, sociales et spirituelles. Alors, dans ces pays-là, donc au Maroc, en Égypte, en Tunisie, toutes ces églises se voient de fait complètement redynamisées. À une époque, elles n'existaient plus, enfin des époques coloniales ou des protectorats. Finalement, on voit que ces églises aujourd'hui vont retrouver un grand public et se retrouvent pleines, redynamisées, ouvertes. Il nous manque des pasteurs, on va entendre ça, il nous manque des curés, etc. Donc c'est une dynamique qu'on observe et qui prend beaucoup d'importance. Sur ces routes-là, donc auprès de la société civile, ces acteurs sont aussi, les acteurs religieux sont aussi donc des acteurs qui s'investissent auprès des migrants, mais aussi auprès des droits. Alors, c'est vrai que je me suis intéressée à toutes ces formes, et puis dans le suivi, c'est ce que j'ai appelé une anthropologie religieuse du mouvement, où je vais suivre un petit peu ces acteurs, etc. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser à un moment un petit peu particulier, la manière dont les leaders religieux vont mobiliser l'actualité. Alors, je m'étais demandé l'année dernière, quand on avait parlé de ce colloque, je me suis dit, mais en quoi je vais pouvoir intervenir sur ces questions-là, sur cette question qui lie aussi le droit à l'actualité migratoire à la religion. Et puis, début février, J'ai assisté à un culte particulier qui était un culte d'action de grâce, qu'on va rebaptiser aujourd'hui le culte pour la régularisation, parce qu'il a lieu juste après la période de la régularisation au Maroc, juste après la campagne de la régularisation et juste après les premiers chiffres de régularisés. Donc, comment les acteurs religieux abordent cette question-là dans l'actualité, dans leurs actions, dans leurs discours? Ce culte a lieu le 12 février 2015. Donc, on a vu un petit peu le contexte ce matin, enfin hier avec Nadia, avec Mehdi aussi, sur ce contexte marocain. Là, on va voir comment on peut voir que va s'enclencher sur cette question de la régularisation de la migration au Maroc, une théologie presque militante, une théologie de la migration. Alors ce contexte, celui qu'on décrit depuis hier au Maroc, c'est celui de 2013 à 2015, donc cette période de régularisation, donc sur les recommandations du Conseil national des droits humains, le régime met en place cette campagne de régularisation, on ne va pas y revenir, qui va déboucher sur à peu près 18 000 régularisations, entre 20 et 18 000 régularisations. Et c'est dans ce contexte que ce culte dont je vais vous parler, et que je vais peut-être vous faire écouter aussi, va se dérouler à Rabat. Alors, tout d'abord, cette église dont je vais vous parler, c'est l'église évangélique au Maroc, qui est une église historique et qui a connu un déclin pas possible depuis la fin des colonisations et qui, depuis les années 90, avec l'arrivée des premiers étudiants africains, va reprendre vie. Ces églises ont dû s'adapter, se développer. Elles ont ouvert d'autres lieux, accueilli des fidèles, recruté des pasteurs, organisé un service d'entraide, des services de bourse pour les étudiants, développé même des actions de retour pour certains et des actions et des événements en lien avec la migration. Et de fait, les cultes dans l'église protestante sont de plus en plus proches de la réalité de la migration. Le profil même des leaders religieux est souvent plus proche de celui de l'entrepreneur religieux chez les protestants. Il y a des pasteurs qui sont pasteurs avant de partir et qui vont recréer leurs églises. Il y a ceux qui, dans la migration, vont durer, vont s'installer, etc., comme on a pu voir, et qui vont s'auto-proclamer pasteurs en migration. Il y a ceux qui vont se former aussi, il y a ceux qui ne sont pas formés. Il y a ceux qui sont envoyés par leurs églises et ceux qui vont découvrir une vocation dans la migration. Il y a ceux qui restent et ceux qui partent. Une église peut avoir un pasteur pendant 2 ans, puis celui-ci peut repartir après. Donc, il y a beaucoup de mobilité, même à l'intérieur de l'institution religieuse. D'autres, certains vont passer en Europe, vont avoir des papiers, vont être régularisés et vont revenir comme pasteurs. Et au Maroc, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, il revient de nouveaux prophètes, etc. Donc, on observe des tensions, des divisions, et vraiment une explosion de petites églises un petit peu partout. Et dans ce contexte-là, l'église évangélique au Maroc, c'est celle qui essaye de rassembler, qui essaye à un moment donné de recentrer, de coordonner, de faire une forme de guidance, et en accord avec le ministère des Habous et des Affaires religieuses au Maroc, cette église a un petit peu cette fonction-là. Donc celui qu'on va entendre, c'est le président de cette église. Il rappelle toujours que cette église est à la croisée des chemins, entre l'islam, le christianisme, entre l'Europe et l'Afrique et le monde arabe, les anciens et les nouveaux, les migrants et les non-migrants. Il dit, nous sommes à l'église évangélique au Maroc, vraiment à la croisée des chemins, au cœur des problématiques du monde contemporain. Des fois, en entendant le pasteur, on se dit, mais il a dû être anthropologue dans une autre vie, il nous écoute, qu'est-ce qu'il nous lit, c'est pas normal. Et on se connaît, évidemment, on se côtoie. Et cette église, elle est vraiment ancrée dans l'actualité. Elle suit de près le parcours des migrants africains. Et c'est pour ça que le 12 février, il décide d'organiser un culte d'action de grâce au temple de Rabat pour remercier Dieu et le roi pour la régularisation des migrants. Ce culte de la régularisation est destiné aux églises migrants. C'est la première fois où cette église historique, qui se retrouve maintenant avec un public de 99% à peu près africain, cette église historique va s'ouvrir aussi aux églises de migrants. Donc on est face à une nouvelle étape, une étape assez importante. Donc pour remercier Dieu et le roi, on va convier les leaders religieux de toutes ces églises de migrants qui sont éparpillées dans la ville. Avant d'en écouter un petit extrait, ou alors je vous le lirai, je ne sais pas, j'ai essayé d'adopter le temps, je me dis, puisque eux, ils peuvent être anthropologues, est-ce que moi, je peux devenir pasteur? C'est un grand moment, je n'ai jamais essayé encore. J'aurais plus de mal quand même pour faire une prêche en arabe, mais je me dis qu'en français, ça pourrait aller. Alors tout d'abord, une prédication pour le président, pour le pasteur qui va parler, président de l'Église évangélique au Maroc, c'est souvent une dizaine d'heures de préparation. C'est une véritable mise en scène dans un contexte qui est assez particulier. On remarque, on va voir un sens de la déclaration, des intonations différentes, c'est là où je ne suis peut-être pas assez forte. Une maîtrise du pathos par l'orateur qui est assez impressionnante, un appel aux émotions, mais aussi à des registres théologiques qui ont été mobilisés pour l'occasion. Et on va voir quels registres théologiques sont mobilisés. C'est ça qui est intéressant. Des métaphores, une mise en scène de l'actualité. Alors, on y va. Je suis sûre que vous avez beaucoup envie. Je me dis, je continue ou j'y vais? On peut essayer sur l'extrait quand même. Allez, on y va. On y va, mais je ne suis pas sûre que ça marche très bien parce que je n'ai pas su couper dans mon fichier son. Alors, vous êtes en plein dans l'église. Il n'y a pas grave, on va dire. Donc, Dieu connaît les tranquillos. Il connaît les quartiers, en fait. Il connaît les camps de l'art de la forêt de Oujda. Il est allé à la forge à Oujda. Et je vous les mets, les textes. Vous pouvez les suivre en même temps sur la photo d'après. Ouais, c'est dommage parce qu'il connaît applaudissements, hurlements, je vais le mettre. Il connaît Katakadoum, il connaît Isaac, il est en train de citer tous les quartiers. Il a entendu les cris de son peuple qui montait vers lui. Bon, alors il demande à la salle après de crier plus fort. Il sait même que certains ont été régularisés et ont reçu des papiers au Maroc. Il a vu cela, il a permis cela, il a voulu cela. Ça va, c'est un petit peu là. Mais il connaît aussi les milieux d'entre eux qui ont été déplacés au Maroc, ceux qui ont été refoulés, qu'on a pris à Koudougou, qu'on a amené dans le sud. Il sait cela. Oh, j'ai pas le temps quand même. Parce qu'il a entendu vos cris, il a entendu vos gémissements, les cris, les prières, et il connaît personnellement chacun d'entre vous. Vous pouvez imaginer l'émotion quand même qu'il peut y avoir. Faites monter ce cri, la souffrance du peuple, etc. N'arrête pas de prier, mon frère, etc., etc., etc. Il amène petit à petit à Dieu qui ne veut pas la justice. Ouais, on y est. Je sais pas si on y est. Quoi ?
Passion.
Ah, passion, pardon. Alors, Dieu va chercher Moïse. Moïse qui se doute de rien. Moïse le fugitif. Moïse l'émigré. Moïse l'aventurier, Sylvie. Moïse la seule. Lui qui s'est révolté, etc., contre les Égyptiens. Et puis après, il est allé chercher celui-là qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Je suis sûr que je vais y arriver car ils seront rassasiés. » dit l'Éternel. Dieu vient chercher ce Moïse-là. Dieu vient te chercher, puisque tu as dit que tu étais Moïse. Il est venu te chercher parce qu'il a un plan pour toi. Toi qui as une petite idée dans la tête, toi qui as des rêves dans ton cœur, tu as des projets d'avenir. Il s'adresse aux migrants quand même. Hein. N'est-ce pas toi, n'est-ce pas qui te pousse vers le nord? N'est-ce pas que tu as... Et tout le monde répond. Oui, alors, tu as des rêves qui te poussent de l'autre côté de la Méditerranée, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien. Dieu connaît ta soif de justice. Ces rêves qui te poussent vers l'aventure, ce sont eux qui te poussent vers le danger. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Ah. Toi, tu as une idée, tu sais ce que tu veux faire, mais quel est le projet de Dieu pour toi? Dieu n'approche plus. Après, il repart du buisson, de Moïse, etc., etc. Voyez mes frères, mes amis, la maison de Dieu, elle est ici, sur cette terre. Ce qui veut dire, c'est que tu n'es pas ici pour rien. Tu n'es pas au Maroc pour rien. N'importe où. Ah, Dieu habite ici, sur cette terre du Maroc. Pour Dieu, cette terre est sacrée. Tu ne sais pas, mais Dieu, lui, il le sait. Il n'y a pas une terre qui soit chrétienne, une terre qui soit juive, une terre qui soit musulmane. La terre appartient à Dieu. N'importe où Dieu se trouve, la terre est sacrée. Est-ce que Dieu se trouve ici aujourd'hui? Est-ce que cette terre appartient à Dieu? Ben voilà, est-ce que Dieu se trouve au Maroc aujourd'hui? Oui, oui. Alors cette terre est sacrée, parce que Dieu est là. Vous imaginez pas, mais les pouvoirs sont vraiment chers quand même. Cette terre appartient à Dieu. Et il dit, un jour je te donnerai un signe. Et tu viendras ici, Dieu t'enverra un signe. Et alors tu pourras rendre ton culte librement sur cette terre, dans cette terre sacrée. On est au Maroc quand même, tu auras un signe. Et tu viendras ici rendre ton culte. Et il dit, moi j'ai entendu les responsables du CNDH. Hein? On l'a entendu. Il a dit, puisqu'on en parle depuis hier, il a dit, il faut que les chrétiens puissent construire des lieux de culte au Maroc. Il a dit, il a écrit, il a dit à la télé, il a publié, il faut que les chrétiens puissent construire des lieux de culte. Il a dit, moi je me rappelle en France dans les années 70, les musulmans devaient se cacher pour prier pour avoir leur culte. Je ne veux pas que les chrétiens vivent cela au Maroc. Il a dit, sur cette terre du Maroc, je veux que les chrétiens puissent vivre leur culte librement, etc., etc. Donc un jour, tu pourras vivre ton culte librement. Voilà comment, en fait, on rentre dans un culte qui est lié, effectivement, donc à un moment particulier, à un moment aussi où il y a eu ces régularisations. Il faut imaginer une salle pleine, il faut imaginer des cris, il faut imaginer des gens qui ont été régularisés, d'autres qui n'ont pas été. Et il faut imaginer aussi cet appel qui fait donc à la culture aussi, à l'histoire, à l'actualité, à la culture sociologique de la migration. Il dit, tu n'auras plus à te cacher. Tu vas pouvoir à rentrer deux par deux, parce qu'il connaît tout ça. Il sait très bien que quand il y a des églises de migrants, quand les cultes ont lieu, les gens rentrent et ils repartent deux par deux. Ils ne repartent pas, ils ne sortent pas en foule d'une maison parce qu'ils peuvent se faire arrêter. Et c'était pareil en Égypte aussi. On vit la religion cachée. Enfin, ces gens vivent la religion cachée. Donc, il continue en plus, il continue du coup avec le rappel du parcours de Moïse. Parce que Moïse, c'est un peu l'immigré. C'est un peu lui. Et c'est là, sur ce parcours qu'il va se mettre, qu'il va déclencher tout son discours. Et il lui dit, pourquoi 18 000 régularisés? Pourquoi lui? Pourquoi pas toi, par exemple? Et si toi, tu acceptes d'être Moïse? Parce qu'il leur demande, c'est toi Moïse. Tu es Moïse, tu as une mission, tu es sur cette terre pour quelque chose. Tu dois continuer à te battre pour les autres. Et le culte va continuer comme ça, avec les références théologiques, historiques, la mise en relation directement avec le contexte. Mais dans tous les cultes qu'on a pu observer comme ça, sur ces routes-là, on voit que les références à Moïse sont souvent mobilisées dans toute cette littérature exégétique africaine, tout comme le séjour de Jésus-Christ en Égypte. Tous ces référentiels sont utilisés à un moment donné. Il continue ce culte-là en faisant une démonstration avec un billet de banque, etc. Beaucoup de ces pasteurs sont aussi formés régulièrement en Amérique aussi et ont des techniques de prêche assez fortes. Et à la fin, il conclut en disant « Notre valeur, personne ne peut la toucher. Votre puissance, c'est votre spécificité, c'est ça votre dignité. On peut vous taper, on peut vous insulter, mais jamais on ne voit les rêves des gens. » Et en cœur, les gens répètent, « Je suis Moïse et j'accepte cette mission que tu me confies, Seigneur. » Le pasteur connaît les migrants. Il les reçoit tous les jours à Casablanca. Il voyage régulièrement dans tout le pays, jusque dans les camps. Ils ont formé un comité d'entraide. Il connaît leurs souffrances, il connaît leurs histoires. Et à la suite, il fait venir d'autres pasteurs d'églises de migrants qui vont être appelés là pour des témoignages, où chacun va remercier le roi, le gouvernement, le président du Conseil des droits humains. Tout cela entrecoupé de chants, mais pas le HR, je suis désolée, je sais pas. Là, je dis, tout cela entrecoupé de chants, de chorales et de prières. Puis il demande à tous de prier. Prier pour les autorités marocaines qui ont reconnu. Pourquoi ne pas prier pour ces gens? Pourquoi ne pas prier pour ce pays? Nous allons bénir ce pays et le peuple marocain. Amen. Cette terre qui nous accueille. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Demandez au Seigneur de sauvegarder cette nation contre tous les périls, contre toutes les attaques sataniques, contre toutes les terreurs. Bénis ce pays, bénis le roi de ce pays, bénis ce peuple. J'ai fait la conclusion. Il n'y a pas de conclusion. La construction contemporaine d'une sociothéologie ou d'une théosociologie de la migration. Parce qu'en observant cette église, enfin celle-là particulière et puis d'autres maintenant depuis près de 2 ans, en participant au culte, en rencontrant les leaders, les fidèles, mais aussi en suivant un petit peu des cours de théologie quand même, ça m'a posé certaines questions. Me poser la question de savoir si les leaders religieux, en s'appuyant sur leur vécu et sur leur connaissance sociologique de la migration, n'étaient pas en train de construire justement une théologie des migrations, comme on avait la théologie de la libération en Amérique latine, etc. Et en recherchant un petit peu plus loin, je me suis rendu compte que cette théologie, elle existait. Effectivement, elle est encore peu développée, mais elle existe depuis les années 80, mais surtout depuis le 21e siècle. Donc tout n'est pas qu'inspiration et vision, il y a vraiment une construction de cette théologie, mais qui a été beaucoup plus avancée en Europe, hein, qui est liée aussi à cette rencontre entre les églises de migrants et l'église catholique en Europe. Et au Maroc, c'est plutôt par l'église protestante que c'est arrivé, de cette construction de cette théologie. Elle se fait tout simplement un petit peu à la manière dont on travaille, nous les anthropologues, puisque c'est ce qu'on appelle une théologie inductive en fait. Une théologie inductive qui va s'inspirer aussi des lectures, de l'actualité, mais aussi des sciences humaines et sociales. Et il y a des textes qui ont écrit, il y a très peu de textes, mais des textes de théologiens là-dessus, qui montrent qu'effectivement, il faut s'adapter à ce nouveau public, mais qui ne sont pas aujourd'hui seulement un nouveau public au Maghreb, mais les véritables protagonistes de la mission chrétienne dans cette partie de l'Afrique. Pour les leaders religieux et pour les églises historiques, sans la migration africaine, ces églises n'existeraient pas. Donc c'est aussi s'adapter aussi à ce public-là, essayer aussi de l'encadrer, parce que c'est un public aussi qui part vers plein d'églises différentes, essayer de l'encadrer, de mettre en place des systèmes de formation, ça c'est un autre travail que je fais sur la formation œcuménique des leaders religieux, mais ça c'est aujourd'hui nécessaire, parce que c'est les protagonistes majeurs du christianisme dans cette partie de l'Afrique. comme on a pu le voir, j'ai pas les qualités de pasteur, mais avec un petit peu d'entraînement, je devrais y arriver. Les évangiles, les textes utilisés dans cette prédication, vont servir un contexte. Le contexte est celui de la régularisation au Maroc. Mais inversement, ce contexte, il sert aussi à développer le christianisme au Maroc. Le pasteur va mobiliser autant l'actualité que le parcours de Moïse, qui devient la figure du migrant. Le pasteur va s'adresser lui-même au migrant comme Dieu s'adresse à Moïse. « Tu es Moïse, j'ai un plan pour toi », etc., etc. Mais dans la migration, on a vu aussi que les pasteurs vivaient fortement cette mobilité et que leur place n'avait pas toujours non plus à vitam aeternam. Donc cette théologie militante, protestante en migration, elle permet aussi de réfléchir pour eux à la question de l'étranger, du migrant, par rapport à une théologie chrétienne qui n'était pas adaptée. Donc c'est un champ qui est en train de s'ouvrir et sur lequel les gens se forment aussi, mais qui est venu d'en bas, qui est venu par la nécessité, parce que la migration crée aussi des dynamiques religieuses différentes, parce que la migration interpelle les religions aussi et recrée de nouvelles façons de faire de la religion. Le pasteur doit aussi lui s'affirmer par rapport aux autres églises, comme je vous le disais, et petit à petit, ces autres églises aussi, il faut voir que là, c'est une forme de théologie qui est née des églises historiques, qui est née de l'inductif, comme je vous disais, mais que dans d'autres églises, on a aussi une théologie qui peut être plus violente, une théologie liée aussi aux croisades contre l'islam, etc. Il y a pas mal de travaux qui sont menés là-dessus. Et là, c'est une position qui est beaucoup plus militante, presque politique, je dirais, qui engage aussi le pasteur dans une capacité, dans une compétence de regroupement, de contrôle, etc. Donc cette entrée par les religions et l'immigration au Maroc nous donne à penser sur les acteurs religieux, de voir comment les acteurs religieux réagissent à cette question politique, mais aussi sur la manière dont le Maroc doit aussi gérer cette question. On voit très bien que le pasteur interpelle aussi les autorités, il les remercie, mais il les interpelle. Comment le Maroc doit aussi gérer cette question chrétienne, ou plus ou moins celle de la pluralité religieuse, qui est posée aujourd'hui par la migration. La migration, c'est celle de l'étranger qui est chrétien, mais cette question-là, elle pose aussi la question du Marocain chrétien. Donc la migration, elle re-questionne aussi, elle relance le débat, un débat qui est important au Maroc sur la pluralité religieuse. Merci beaucoup.